Radio Okapi.
Le journal Pierre et la Mégie.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Déchéance hier par une majorité écrasante du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Jeanine Mabunda. Après le vote qui a épargné le questeur adjoint pour raison de santé, l'heure est au questionnement sur la suite des événements après la chute du bureau de l'Assemblée nationale. Tentative des réponses en début de ce journal avec Julien Nyamouini. D'une déchéance à l'autre, cette fois c'est le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami qui a été destitué de son poste le mercredi à la suite d'une pétition initiée par un député provincial. Héritier Katandola promet de saisir le Conseil d'État. L'invité de votre journal, c'est Joseph Ingaji, directeur national d'Otia. Il nous parle de la mission de la délégation qui a séjourné à Beni le mardi dernier afin d'évaluer les besoins en assistance humanitaire dans cette région en proie aux groupes armés, notamment les ADF. Vous les suivrez avant la fin de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons d'abord par cette information. En bref, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est arrivé ce vendredi en début d'après-midi à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Il a été accueilli par une foule immense qui a fait le déplacement de l'aéroport de Kolwezi. Pendant ces temps, une autre foule a été visible le long des grandes artères de la ville. Les sources sur place renseignent qu'un podium a été érigé à la grande place de la Poste. Il est fort probable que Joseph Kabila s'adresse à la population. Notons que c'est pour la première fois qu'il foule les sols de Kolwezi depuis l'alternance politique jusqu'à présent, son agenda n'est pas encore connu. Le bureau de l'Assemblée nationale a été déchu hier soir à Kinshasa après le vote des différentes pétitions contre chaque membre du bureau, hormis les questeurs adjoints pour raison de santé. Ils ont été déchus de leur poste par une écrasante majorité par la plénière de la Chambre basse du Parlement. Mais quelle est la suite à donner après les changements du bureau? Tentative des réponses avec vous, Julien Nyamouini.
La première étape de ce long processus est l'installation du nouveau bureau définitif de la Chambre basse du Parlement par le bureau d'âge qui est à l'origine de l'organisation de ces scrutins. Mais face aux contraintes du temps en raison de la clôture de la session ordinaire le 15 décembre prochain, une session extraordinaire n'est pas exclue, explique un parlementaire. Selon le député de l'opposition, Jacques Ndjoli, cette session extraordinaire aura pour mission d'installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais aussi pour adopter la loi des finances 2021. Autre priorité de cette session extraordinaire, indiqué par la même source, la déchéance du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Les mêmes canaux pourront être activés en vue d'obtenir sa déchéance par une motion de censure au cours de cette session extraordinaire, explique-t-elle. D'après plusieurs sources parlementaires, l'article 147 de la Constitution pourrait être activé. Celui-ci stipule, je cite, « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ces cas, le Premier ministre remet la démission du gouvernement au président de la République dans les 24 heures. » Fin des citations. Les principaux acteurs de cette opération politique affirment de toute évidence que pour retrouver la stabilité des institutions politiques du pays, tout devrait se jouer au cours de cette session extraordinaire.
Notons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sera le lundi 14 décembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. L'annonce a été faite ce vendredi par le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, en plénière devant les sénateurs. C'est pour les traditionnels discours de fin d'année pour faire un état des lieux sur la marche du pays. Le FCC a perdu une bataille importante, mais son combat pour la préservation des acquis démocratiques, de l'unité nationale et de la stabilité en vue de l'émergence du pays est loin de s'arrêter. À tous les patriotes de resserrer les rangs derrière ces challenges, indique son coordonnateur Némi Mwilania sur le compte Twitter du FCC. Telle est la réaction de la plateforme de Joseph Kabila à la déchéance du bureau de Jeanine Mabunda hier à l'Assemblée nationale. Pour sa part, Moïse Katumbi, leader d'Ensemble pour la République, écrit sur son compte Twitter, je cite, « Félicitations aux députés pour ces votes historiques. Ils ont répondu aux attentes de la population et honoré la mémoire de nos martyrs. Il n'y a plus d'obstacle pour conduire une politique en faveur de la population et mettre en œuvre les propositions issues des consultations. » Fin des citations. Ranoundou à Mbandaka, où les habitants se disent favorables à la dissolution hier jeudi du bureau de l'Assemblée nationale. Plusieurs ont justifié leur satisfaction du fait que le bureau Mabunda œuvrait contre les intérêts de la population. Ils soutiennent ainsi cette initiative en vue d'appuyer la mise sur pied de l'Union sacrée de la nation, mais aussi pour l'émergence d'un Congo prospère. Ces habitants de Mbandaka se sont exprimés dans différents coins de la ville au micro de Paul Richard Malengela.
Qu'on étudie ou pas, on est professeur ou pas, on est entré dans le bureau de souffrir. Alors si ce bureau est dissous, donc il y a de l'espérance. Nous espérons que le CER va nous mettre une main forte pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors nous sommes très très contents.
Ceux qui ont initié la pétition, ils ont des indicateurs, ils ont des preuves que le bureau a connu quelques failles. Et la dynamique politique demande cela. C'est toujours important que les autres entrent pour que les choses aillent en avant.
L'impression et les intentions sont bonnes. Nous avons besoin d'améliorer les conditions de vie de la population. Dissoudre le Parlement, c'est bon, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin de voir la liberté, nous avons besoin de vivre un état des droits, mais pas un état des droits politiques.
Le FCC, à un certain moment, ne travaillait pas pour l'intérêt de la population, mais il travaillait pour l'intérêt d'une personne ou d'un camp. Et ça, c'est inacceptable pour notre pays. Nous sommes satisfaits de la décision que les députés ont prise de destituer ce bureau-là, et nous pensons qu'un autre bureau pourra travailler pour l'intérêt du peuple et à côté du président.
Nous sommes contents par rapport à la dissolution du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons besoin d'une nouvelle majorité pour l'épanouissement de la population. D'ailleurs, c'était notre souhait.
Et comme je le disais tout à l'heure dans les titres, d'une déchéance à l'autre, cette fois c'est le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami qui a été destitué de son poste le mercredi à la suite d'une pétition initiée par le député provincial Marc Kembondai. Héritier Katandula parle d'un complot ourdi contre sa personne par ses amis du Front commun pour le Congo FCC et promet de saisir le Conseil d'État. Jean Andou, dites-nous, qu'est-ce que les élus provinciaux du Haut-Lomami reprochent à l'élu de Malembankoulou?
À en croire l'initiateur de la motion, plusieurs griefs sont portés contre l'ancien speaker de l'organe délibérant du Haut-Lomami. C'est notamment la non-maîtrise de la langue française, l'ivresse dans la salle de plénière, l'incapacité de faire la restitution de ses missions, la mauvaise gestion de cette institution, mais aussi l'irrégularité dans la convocation des séances plénières. Présent dans la salle, l'incriminé a donné ses moyens de défense avant que le vote ne soit organisé. Sur 23 votants, 22 ont opté pour son départ du perchoir et un seul a voté pour son maintien. Il s'agit sans nul doute de sa propre voix, nous a-t-il indiqué. L'ancien président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami s'est incliné devant cette sentence et promet de saisir le Conseil d'État. Il dit être victime d'un complot ourdi contre lui par ses collègues du Front commun pour le Congo et parle même de trahison. Héritier Katandula indique qu'il est certes parti de la présidence de l'Assemblée provinciale, mais reste député provincial et s'engage ainsi à œuvrer pour le bien de ses électeurs. L'Assemblée provinciale du Haut-Lomami va donc dans les tout prochains jours organiser le scrutin pour se chercher un nouveau président. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Début de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains du camp des Boyabou à 20 km de Libengué dans la province du Sud-Ubangi. Au total, 3000 réfugiés centrafricains sur les 15 000 que compte le camp sont candidats à ces rapatriements selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Jean-Pierre et Lali Coco pour les détails.
Reporté à deux reprises, c'est finalement ce mardi 8 décembre que l'opération de rapatriement des réfugiés centrafricains vivant au camp de Boyabou, à environ 20 km de Libengué, a commencé. 54 ménages de 243 personnes ont été concernés par ce premier convoi. Ce convoi a quitté le camp de Boyabou pour le centre de transit de Batanga à 12 km de Libengué dans un cortège de plus de 15 véhicules. C'est à ce port qu'ont été stationnées les embarcations de vont assurer leur traversée vers le pays d'origine, la Centrafrique. Les quatre baleinières ont ensuite quitté Batanga, traversé la rivière Ubangi pour Mungumba, une localité centrafricaine. Aucun incident n'a été signalé lors de l'opération. Les ACR et ses partenaires ont mis en place des mesures barrières contre la COVID, notamment la prise de température, la fourniture de masques, les dispositifs de lavage de mains, le respect de la distanciation sociale et la désinfection du centre de transit et des véhicules. Le prochain convoi est prévu pour ce vendredi 11 décembre 2020.
19h09 à Kisangani dans la province de la Tchopo, où les étudiants des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire renforcent leurs capacités en matière d'exercice des libertés publiques dans les milieux académiques. Sur l'initiative du groupe de travail pour la décentralisation et les élections, deux professeurs d'université et un chercheur en droits humains les ont entretenus à ces sujets hier au centre de pastoral afin qu'ils soient en même de mieux exercer leurs droits en la matière. Un reportage de Jacques Mokongole.
En cette période agitée sur le plan politique au pays, les étudiants non avisés peuvent tomber victimes de manipulations politiciennes, déclare François Lemba, coordonnateur du GTDE.
Notre objectif dans organisant cet atelier, c'est de contribuer à l'instauration de l'état de droit en RDC. Nous pensons que les notions de l'état de droit et de liberté publique seront bien connues et partagées. Les obstacles entravant l'exercice de liberté publique en milieu universitaire seront identifiés.
Mieux outillés, les étudiants sauront quelles stratégies adopter désormais pour ne pas énerver la loi, a souligné la professeure Bibiche Saloumou.
Et puis, ils ont la possibilité de saisir le média pour faire passer leur message. En dehors de ça, ils peuvent rédiger leur cahier des charges, aller voir l'autorité, organiser les lobbying, les plaidoyers. Ils ont tous les moyens pour pouvoir exercer dans toute tranquillité, dans le respect de la loi. Les deux principes essentiels, c'est l'égalité et égalité. Donc, les institutions doivent se soumettre aux lois.
Pour leur part, les étudiants promettent de se comporter dorénavant en conséquence. Gauthier Lemba, président du comité des étudiants de l'UNUKIS.
Nous pensons au-delà de ce que nous avons appris ici, nous allons sensibiliser les amis dans le même contexte, mais que tout étudiant soit outillé par rapport à cette thématique ici.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Kulu, le village Lozomonene, situé dans le secteur de Lozo, territoire de Gungu, s'est vidé de sa population qui passe nuit en forêt depuis mercredi dernier. C'est le député provincial Franck Gatola Mungela qui livre cette information ce vendredi à Radio Kapi. Selon lui, un conflit coutumier qui a élu domicile depuis une année dans ce village est à la base de cette situation. Il explique qu'un camp adverse n'a pas voulu obtempérer aux lois coutumières en faveur du chef en place. À la suite de cette désobéissance, un désordre total a caractérisé le village. Puis, la police y fait son apparition, ce qui justifie la fuite de la population dans la forêt et la paralysie de toutes les activités, a fait savoir Franck Gatola. Tout en appelant cette population au calme, cet élu de Gungu en appelle à la responsabilité du gouvernement central afin que la paix revienne dans cette partie du pays. Plus de détails, Irène Boma.
Selon le député provincial Franck Gatola Mungela qui livre cette information, c'est depuis mercredi dernier que le village Lozomonene dans le territoire de Gungu s'est vidé de sa population qui se cache maintenant en forêt. Toutes les activités commerciales et scolaires sont paralysées et les portes des centres de santé sont restées fermées, a-t-il poursuivi. Un conflit coutumier serait à la base de cette situation, a affirmé Franck Gatola qui explique.
Le chef était sorti pour une mission et conformément à la coutume, dès son arrivée, les activités devraient être interrompues. Ceux qui sont contre le chef n'ont pas voulu obéir à ces normes coutumières. Les pro-chefs sont allés interpeller. Cela s'est fait qu'il y a eu des désordres terribles, des bousculades entre les deux camps et la police a de nouveau fait son apparition dans le village de Lozomonene. En ce moment ici, toute la population est en brousse.
Cet élu de Gungu en appelle à la responsabilité du pouvoir central afin que la paix redevienne dans le village Lozomonene.
Nous en appelons au gouvernement central pour que ces derniers puissent s'en occuper afin que la paix revienne dans le village de Lozo.
Ça fait déjà une année depuis que ces conflits coutumiers existent, a indiqué le député provincial Franck Gatola, qui invite la population en fuite au calme et à regagner le village. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les États-Unis jugent crédibles et graves les informations sur la présence des troupes érythréennes au Tigré en Éthiopie. Nous sommes au courant d'informations crédibles faisant état d'une implication de l'armée érythréenne au Tigré et considérons qu'il s'agit d'un développement grave, a déclaré à l'AFP un porte-parole du département d'État américain. Nous exhortons de telles troupes à se retirer immédiatement, a-t-il ajouté. L'ambassadeur éthiopien aux États-Unis, Fitsum Ariga, a dénoncé un mensonge sur son compte Twitter. Le Maroc s'engage à normaliser ses relations avec Israël. L'annonce a été faite jeudi soir par un tweet de Donald Trump avant d'être confirmé par Rabat. Le président américain a également affirmé qu'il avait signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est jeudi 10 décembre, l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Mohamed VI s'est avéré fructueux. Le président américain a annoncé au roi marocain que les États-Unis avaient décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et d'ouvrir un consulat à Dakhla. Mohamed VI, quant à lui, indiquait que son pays allait reprendre des relations diplomatiques avec Israël. Le roi s'est notamment dit prêt à accorder des autorisations de vol directs entre les deux pays et à promouvoir des relations économiques.
L'invité.
Une délégation du bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad, conduite par la directrice du plaidoyer et des opérations, Madame Rena Ghelani, a séjourné à Beni le mardi. Elle y était pour évaluer les besoins en assistance humanitaire dans cette région en proie aux groupes armés, notamment les ADEF. Pour en parler, nous recevons Joseph Ingangi, directeur national d'Otia et membre de cette délégation qui s'entretient avec Sekombi Katondolo.
Joseph Ingangi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Beni avec la directrice du plaidoyer et des opérations du bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, Madame Rena Ghelani. Peut-on savoir l'objet de votre visite dans cette région?
Merci beaucoup. La visite de Madame Rena Ghelani est très importante ici à Beni. Pourquoi? Parce que Madame Rena Ghelani, d'abord, elle est le chef des opérations au sein de OCHA. C'est elle qui couvre cette bureau pour voir le fonctionnement de cette bureau, comment on peut fonctionner mieux pour aider nos partenaires. La deuxième chose, c'est que Madame Rena Ghelani, elle préside une groupe de tous les directeurs des urgences, de tous les ONG, aussi tous les organismes des Nations Unies. Sa visite ici ne sera pas seulement restée au sein de OCHA. Mais c'est une chose, ce qu'il va voir, ce qu'il va récolter et pour amener avec eux sera publié dans le monde. Parce qu'il est une personnalité qui fait les coordinations au niveau global.
Effectivement, en parlant de cette vision globale, quelle est la situation que vous dressez de la situation humanitaire à Beni?
Je dois vous informer que Mme Rena, ce matin, elle a quitté ici pour aller à Aouicha. On a passé dans une école là-bas. C'était vraiment triste. Il y a beaucoup de déplacés qui habitent dans l'école. La souffrance est visible. Les mamans qui ont déjà été traumatisées par les tueries de leurs femmes, les enfants, leurs maris, tout le monde. Vraiment, c'est triste. Mais l'assistance qu'ils ont reçue n'est pas vraiment très suffisante. Et je pense la visite de Madame à Oicha, c'est très important parce que ça va nous aider à faire le plaidoyer pour assurer que on donne cette personne qui est déjà traumatisée l'assistance nécessaire, ce qu'ils ont besoin. Mais je dois vous dire, même si on parle d'assistance, le déplacer, prendre pas l'assistance humanitaire comme prioritaire. Leur priorité, c'est la sécurité, la paix, pour qu'ils retournent chez eux. Et ça, je dois réitérer que chacun de nous, même si on donne l'assistance, chacun de nous doit engager et trouver une solution pour permettre les déplacés retourner chez eux.
Les chiffres par rapport au nombre de déplacés diffèrent. Et certaines personnes parlent des 18 000, d'autres avancent d'autres chiffres. Est-ce qu'il y a des statistiques exactes par rapport aux chiffres des personnes déplacées dans la région de Beni?
Oui, le nombre nous avons total pour les personnes déplacées dans le territoire de Beni, c'est 739 000 personnes déplacées dans tous les territoires de Beni. Vous avez aussi évoqué le problème des assistances. Comment on peut assister mieux les déplacés? Je pense que les humanitaires sont en train de faire leur mieux. Il y a deux problèmes que nous avons. Le premier, c'est manque de financement pour permettre de donner l'assistance humanitaire. Par exemple, vous allez voir dans le territoire de Beni, nous avons plus de 30 projets qui vont clôturer. Ce qui signifie, s'il n'y a pas moyen de financement, parmi les ONG va quitter. Et c'est pour cela, chacun de nous devons faire tous les plaidoyers, trouver moyens nécessaires pour permettre à nos partenaires répondre aux besoins des populations. Deuxième problème nous avons, c'est l'accès. L'accès est très important et je voulais aussi vous informer, quelque part, on voit les incidents contre les humanitaires. C'est une chose qui limite les humanitaires de donner assistance aux personnes qui a besoin, comme les déplacés et autres. Et c'est pour cela que j'appelle à tout acquis des droits pour respecter les droits internationaux et humanitaires et accorder l'accès sans condition aux humanitaires.
Peut-être un message à donner à la population qui vous écoute à pareil moment.
Le message que je peux donner aux populations, c'est que les déplacés, ils ont à entre souffrir, pas vraiment seulement d'un côté de l'assistance humanitaire, mais d'un côté aussi psychologiquement. Mais je répète encore, les priorités des personnes déplacées, ce n'est pas seulement l'assistance humanitaire. L'assistance humanitaire n'a pas la solution pour le problème humanitaire. Nous avons besoin de ce qu'on appelle la paix, la sécurité, pour qu'ils retournent chez eux. C'est un message, les déplacés sont répétés plusieurs fois, et des messages que j'ai pris avec beaucoup d'attention.
Monsieur Joseph, la Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.